c'est pas croyable, on peut rien demander à personne dans cette maison. On peut rien avoir de bien, on peut rien avoir de beau. Je me demande comment vous pouvez vivre ici. Tout est moche ici, tout est petit. C'est petit, c'est moche, c'est tout. Salut.
Toutes les semaines, sur Ado Judaïka, retrouvez l'émission Nos Adorés. C'est l'émission qui répond aux questions que se posent les ados.
Et que nous conseillons vivement aux parents.
Tous les mardis, à 13h30. Bonjour à tous, je suis Julie Sigel, ravie de vous retrouver dans Nos Adorés. Bienvenue à tous nos adorés, bienvenue aux parents d'adorés et à tout leur entourage qui vont nous écouter aujourd'hui parce qu'on va apprendre à gérer nos émotions par le biais de la sophrologie et on va aussi parler de la communication non violente. Pour ce faire, nous recevons Laurence Lefer qui est coach et sophrologue. Bonjour Laurence.
Bonjour.
Bienvenue dans Nos Adorés. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vous et de votre parcours rapidement ?
Oui. Donc je suis coach en développement personnel et en communication interpersonnelle, communication bienveillante et sophrologue.
D'accord, merci. Vous avez peut-être exercé d'autres professions avant d'en arriver au coaching ou à la sophrologie ?
Oui, j'étais 27 ans institutrice, professeure des écoles.
Ah ! Donc vous les aviez avant l'adolescence ?
Oui, je les avais surtout avant l'adolescence. Bon, moi j'ai eu deux enfants qui sont maintenant sortis de l'adolescence.
Oui, vous avez survécu ?
J'ai survécu, mais j'ai eu peur, effectivement.
Oui, c'est le mot, on a peur quelquefois. Et eux aussi, j'imagine, et eux en premier lieu d'ailleurs.
Et eux aussi,
effectivement. On va tout de suite démarrer avec la première rubrique.
Et maintenant, c'est l'heure de la rubrique. Et vous, quel ado étiez-vous ?
Alors Laurence, quel ado étiez-vous ?
Voilà, j'étais une ado très mal dans sa peau. Vous allez me dire, tous les ados sont assez mal dans leur peau. Mais j'étais excessivement timide, dans mon coin. Je n'appartenais pas vraiment à un groupe. Et je me posais énormément de questions existentielles, en fait, très tôt.
D'accord. Et vous sentiez isolée, du coup, du fait d'appartenance ?
J'étais assez isolée, j'étais souvent avec une copine, quand même. Mais j'étais une ado, vraiment, à se poser beaucoup de questions existentielles. Mes parents me disaient, mais t'es compliquée, qu'est-ce que c'est que ces questions ? Et donc, je me disais, mais je suis pas normale, quoi.
Ça gêne les parents, parfois, effectivement, ouais. Quand les ados se posent trop de questions, alors que c'est plutôt riche, en vrai.
Oui, c'est riche, sans doute, mais c'est vrai que par rapport à mes camarades de classe... j'avais l'impression que j'étais pas comme eux. Je me sentais un petit peu différente. Et c'est seulement vers 17 ans que ma maman, me voyant comme ça en souffrance, m'a proposé, il y a 40 ans donc, de faire une psychothérapie.
Ah oui, déjà.
Donc elle m'a dit qu'elle avait une collègue avec qui ça avait très bien fonctionné, qu'elle s'était sentie vraiment progresser. Et bon, je me suis dit, allez, on va tenter.
Et ça vous a aidé ?
Et ça m'a énormément aidé. Je me suis sentie écoutée et comprise.
Ouais.
Enfin, quelqu'un.
Et vous aviez le droit de vous poser des questions.
Exactement,
du coup.
Voilà. Et enfin, quelqu'un qui n'avait pas l'air de me trouver anormale, qui m'aidait à répondre à ces questions, ou me faire comprendre que certaines questions, c'était des questions auxquelles on ne pouvait pas forcément répondre.
En tant qu'adulte, quelquefois, il faut savoir dire à l'ado, je ne sais pas. Je ne sais pas répondre à ta question, elle m'intéresse, mais je n'ai pas la réponse.
Exactement. Accueillir au moins. Accueillir
Exactement.
La question. Et là, c'était plutôt un déni et puis une espèce de peur que je sentais du côté de mes parents.
En tout cas, vos parents ont, j'ai envie de dire, passé le relais à quelqu'un de compétent et c'est plutôt une bonne démarche aussi.
Exactement. Je réalise maintenant que sans doute ma mère m'a sauvé la vie. Parce que j'étais vraiment à un moment donné très, très mal.
Elle a
eu le très bon réflexe, effectivement.
D'accord. Donc l'adolescence, c'est une période de changement, une période de secousse dans la famille. Donc vous l'avez vécu aussi apparemment et avec vos ados aussi. Mm-hmm. Donc on va parler aujourd'hui des outils et des réflexes à avoir pour maintenir un climat serein dans le foyer. Dites-nous, Laurence, rassurez-nous, est-ce que c'est possible et est-ce que c'est long à mettre en place ?
Alors oui, c'est possible, puisque c'est mon métier. J'ai moi-même appliqué ces méthodes. Je ne connaissais pas ni la sophrologie d'ailleurs, ni la communication non violente jeune. Ensuite, j'ai rencontré la sophrologie à 25 ans, enfin à l'accouchement de ma fille, donc il y a 26 ans maintenant, et la communication non violente beaucoup plus récemment.
D'accord.
Et donc c'est vrai que j'ai passé l'étape de l'adolescence de mes enfants
sans connaître ces outils.
Sans connaître ça, donc avec ce que je pouvais. J'ai fait au mieux de mes capacités. Et c'est ça que je dis aux parents aussi, c'est pas la peine de se culpabiliser, on fait au mieux de nos capacités.
Exactement.
Mais à partir du moment où les parents découvrent la communication non violente, c'est vraiment, ils me disent, mais c'est juste ce qu'il me fallait, quoi. C'est juste ce qui me manquait.
Bah, vous allez tout nous expliquer alors, parce qu'on nous parle partout de maîtrise de soi, de gestion des émotions, et en plein bouleversement, on l'a vu avec notre neurologue qui était venu nous voir, Aurélien Benwalid, qui nous a expliqué en fait l'immaturité du cerveau de l'ado. Il nous a aussi dit qu'il n'était pas vraiment responsable de ces sautes d'humeur et des changements de comportement. Donc dans ce cas, comment lui expliquer que oui, il y a des méthodes qui marchent et qui peuvent lui être bénéfiques en matière de communication ?
Oui, alors effectivement, l'adolescent passe une période de tempête, aussi bien neuronale qu'hormonale. Et ces méthodes, je commencerai d'abord par la sophrologie, ça va être une méthode qui va l'aider à gérer justement son stress, ses tensions corporelles, mais également à canaliser ses émotions. Je ne vais pas dire les gérer, j'aime pas ce mot pour les émotions.
Les accueillir.
Mais vraiment les accueillir et les nommer. Et donc, je pense que la meilleure façon pour les parents, c'est d'abord d'être soi-même un modèle. Même si, à cette époque-là, à l'adolescence, ils vont rejeter un peu les modèles, malgré tout, ils voient. Ils voient ce que vous faites. Et si vous-même, vous leur montrez que quand ils se prennent une critique, un reproche, un mot très difficile, vous restez droit dans vos bottes, que vous respirez, que vous avez des méthodes, vous pouvez même leur dire, tu vois, maintenant j'arrive mieux à respirer quand il se passe quelque chose de difficile pour toi, pour nous.
Bien sûr.
Eh bien, se dit, tiens, ça marche, quoi.
Ouais. Bah, c'est aussi un apprentissage, d'être parent d'ado. C'est très particulier.
Oui, je pense que c'est vraiment un bel apprentissage, oui. On est vraiment confrontés
un peu forcé,
à nous-mêmes.
Mais bon,
on est confrontés.
Exactement. Oui, on en a déjà parlé plusieurs fois dans cette émission, c'est qu'on a l'impression d'atteindre une certaine maturité dans la parentalité, et puis paf, comme le chamboule tout. Tout à coup, tout tombe.
Exactement.
Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer plus précisément ce que c'est la communication non violente ? Donc, vous nous avez parlé de l'outil qui est la sophrologie, la respiration. Et la communication non violente, quel est cet outil précisément ?
Alors, la communication non violente a été inventée par Marshall Rosenberg dans les années 80. Mm-hmm. Il était docteur en psychologie et il a vécu aux États-Unis dans les années 40. Donc, il était de confession juive et a subi énormément d'antisémitisme. Et également, dans son quartier, il y avait beaucoup de violence.
D'accord.
Et il s'est demandé pourquoi. Parce que pour lui, fondamentalement, l'être humain est bienveillant.
Oui.
Pourquoi dans certaines circonstances difficiles, de conflits, certains êtres humains vont partir vers la violence et d'autres vont garder cette bienveillance fondamentale.
Très intéressant.
C'était vraiment ce qu'il a voulu...
Postulat de départ.
Voilà, son postulat de départ, c'est ce qu'il a voulu étudier. Mm-hmm. Donc, il a étudié tous les facteurs susceptibles de nous couper de cette bienveillance. Et il a compris le rôle déterminant du langage, des mots, en fait. Et également de l'ignorance. Il a compris que toutes les personnes qui s'engageaient plutôt vers la violence, c'était certainement à cause d'une ignorance d'eux-mêmes, de ce qui se passe à l'intérieur d'eux-mêmes, de leurs émotions, de leurs besoins fondamentaux. Donc ça, c'est vraiment le postulat de la communication non violente. Et que c'est en trouvant un autre processus de langage, un autre processus de communication, qu'on allait garder l'élan du cœur qui est naturel pour lui. L'expression de l'élan du cœur. Pour lui, c'est ça, la communication.
Et concrètement, donc, il a mis ça en place comment ?
Alors concrètement, donc, lui, il a créé cette méthode et ensuite, il a formé des personnes pour vraiment que cette méthode soit répandue dans le monde parce qu'il avait vraiment une mission au monde. Pour lui, c'était si tout le monde pouvait connaître ce mode d'expression, il n'y aurait peut-être plus de conflits. Donc, on peut résumer la communication bienveillante en 4 étapes que je vais nommer OSBD.
D'accord.
Donc, O comme observation, S comme sentiment, B comme besoin et D comme demande.
D'accord.
Donc, la première étape, ça va être d'observer plutôt que de juger. Observer les faits. Puis, ensuite, sentir qu'est-ce que ça me fait à l'intérieur de moi, mes émotions, mes sentiments. Puis, quels sont les besoins qu'il y a derrière ? Parce que derrière chaque émotion, il y a un besoin. un besoin non satisfait.
Tout à fait.
Ou un besoin satisfait. Si c'est la joie, ben, c'est un besoin satisfait. Mm-hmm. Si c'est tout d'un coup, je me sens en colère, c'est qu'il y a un besoin chez moi qui n'est pas satisfait.
D'accord.
Or, dans l'enfance, on n'apprend pas à nos enfants à poser des mots sur nos besoins, sur nos sentiments. Et même, on les rejette, les sentiments, parfois, en tant que parents.
Oui, oui, quand on leur dit « Allez, calme-toi voilà. » Hop, hop, hop.
Voilà. Puis un garçon, ça pleure pas. Ouais. Une fille, ça se met pas en
mais
colère.
Mais on progresse là-dessus, non ?
On progresse énormément, hein, voilà. Bon. Et, mais on progresse aussi parce qu'on entend parler de plus en plus de ça, grâce aussi à des personnes comme Dolto, enfin voilà.
Évidemment, oui.
Et également parce que ça rentre dans les écoles.
Oui.
La communication non-violente rentre dans les écoles, la sophrologie, la méditation, mm-hmm. la philosophie. Avec, par exemple, la Sève, la Fondation Sève, qui œuvre beaucoup là-dedans. Mm-hmm. Donc, ça y est, je pense qu'on a compris qu'en se connaissant soi-même, on allait aussi être dans la connaissance de l'autre. Parce que la sophrologie, c'est aussi, la CNV, c'est aussi, je m'écoute, je suis en... Voilà, qu'est-ce qui se passe en moi ? Mais aussi, du coup, je suis capable d'écouter l'autre. Mm.
Tout
quand
à fait.
Se met en colère.
Se connaître soi-même pour pouvoir accueillir les émotions des autres et y répondre de la bonne façon.
Exactement. Je peux donner un exemple avec les ados, si vous voulez.
Oui, d'ailleurs, c'était ma prochaine question, ben voilà. Laurence.
Enfin, un exemple
nous anticiper.
Pour les étapes. Hein, par exemple,
oui, pardon.
J'imaginais,
oui, on était encore,
dans par exemple, un ado qui laisse traîner ses affaires partout dans le salon.
Oh là là,
voilà.
Hein, le cauchemar.
Ça peut être, mais c'est vraiment, t'es dégoûtant, c'est pas possible, on dirait un gamin de 2 ans, il faut tout te dire, range tes affaires. On a peu de chances que ça marche, ou en tout cas,
En tout cas, devoir réitérer tous les jours.
Peut-être.
Voilà.
Et le lien de communication, bon, il est.
Parce qu'il n'y a pas vraiment de valorisation de l'être humain en face, hein, qui même si c'est un ado qui laisse traîner les affaires, reste quand même un être humain au même titre que nous-mêmes.
Exactement. Voilà. Donc la proposition, ce serait de dire, par exemple, quand je vois tes affaires par terre, elles ne traînent pas, elles sont par terre,
oui.
dans le salon, oui. depuis 2 jours. Donc, donner des faits, comme si une caméra pouvait voir ce qui se passait.
D'accord.
Je me sens, donc je me sens...
On parle de soi, quoi.
On parle de soi. Mm-hmm. Ça vient, le premier aspect, c'est soi-même.
Bien sûr.
Je me sens en colère, ou je me sens triste, parce que j'ai besoin de respect, ou parce que j'ai besoin de propreté, d'hygiène dans la maison, ou d'harmonie. On choisit ce qui nous importe.
Mm-hmm.
Et ensuite, la demande concrète,
oui.
peux-tu à partir de maintenant ramasser tes affaires ? Ou bien, qu'est-ce qu'il te faut pour que je puisse t'aider à organiser ?
Une claque,
par exemple. Ou alors, une proposition.
Oh, on plaisante, hein, tout le monde sait qu'on plaisante. Hein.
Une proposition de co-construction.
Oui.
Le dos pourrait dire, je ne sais pas, si j'avais un bac à linge dans ma chambre, ça serait plus facile. Ok, on met un bac à linge dans ta chambre. Il y a aussi des négociations à faire avec l'adolescent. Voilà. Et puis, bien sûr, on va parler de l'empathie. L'empathie, c'est accueillir ce qui se passe chez notre adolescent et essayer de voir ce qu'il ressent dans une situation donnée et l'accueillir sans juger.
Oui. Mais le problème, souvent, dans la vie de parents et d'ados, d'ailleurs, c'est qu'on n'a pas que ça à faire.
Ah, ça, c'est sûr.
Vous voyez, et c'est ça le problème. Mmh. J'ai le sentiment que là, la méthode que vous venez de nous donner, elle est super si on a dormi 12 heures. Qu'on a pu faire sa méditation, qu'on a été faire une petite balade à l'extérieur, et hop, on rentre, et du coup, les affaires, ça ne nous énerve pas. À la limite, j'ai envie de vous dire, quand toutes les conditions sont réunies. Mais l'attrait de la communication non-violente, c'est vraiment le fait de se dire, voilà, même après une journée de boulot, même après la grève des transports ou que sais-je, je rentre chez moi, je vois ça, au lieu de m'énerver, j'exprime mon émotion et je lui dis, voilà, écoute, ça me dérange.
Ouais.
Je rentre, ça me dérange.
Exactement.
Voilà.
Ça se travaille en amont.
Exactement.
On n'arrive pas forcément tout de suite à réagir comme ça. Moi, quand les gens viennent à mon cabinet, on va travailler le processus, on va le préparer, on va faire des petits tests. Et ça va être parfois après coup. On va revenir et on va parler aux jeunes une fois que la crise est passée.
Mais oui, ne pas hésiter aussi, encore une fois, on en a déjà parlé souvent dans cette émission, à s'excuser aussi auprès de nos ados.
Et à s'excuser.
Voilà.
Dire, tu vois, j'étais
fatiguée. Par contre, l'ado aussi peut s'excuser.
Hein oui,
c'est pas plus grave que ça.
Justement, mais si on s'excuse,
il a du mal.
On lui montre l'exemple. On
oui,
lui montre
tout à fait,
c'est possible.
Vrai.
Qu'on perd pas la face.
Oui,
qu'on perd pas la face.
Exactement.
S'excusant.
Donc en fait, les cas pratiques sont légion. Vous nous l'avez dit. Globalement, l'adulte comme l'ado, en fait, on sait qu'on perd notre calme. Hein. Mais quelquefois, on a le sentiment d'en avoir besoin. Alors, c'est quoi le déclic qui inverserait la tendance ? Comment débuter en fait cette progression vers le calme plutôt que la colère ?
Je pense que très souvent, quand on vient me voir, c'est déjà quand quand il y a beaucoup de souffrance, oui. Quand la communication est interrompue. Et je pense que ça, c'est parfois le déclic. Mais malheureusement, c'est parfois un peu tard. Enfin, on arrive quand même à progresser. Mais je pense que c'est intéressant, de la même façon, de se préparer en amont, de prendre conscience qu'on a des ressources. On a des ressources et de commencer dès la petite enfance, en fait, de pas attendre un déclic ou un conflit.
Oui, mais beaucoup de parents vous disent, voilà, moi, ça a roulé hein, jusqu'à 10-11 ans. J'ai pas eu à me questionner sur ma manière de réagir face à mon enfant.
Oui.
Mais c'est la transformation en gremlins.
Oui, oui, exactement.
Qui, quelquefois, est dure à gérer. Donc, c'est peut-être que là, vous, en tant que coach, en tant que sophrologue, on vient vous voir. Et déjà, le fait d'amener une tierce personne, une personne neutre, dans la relation à l'ado, quelquefois, ça permet aussi ce déclic, je pense. D'être observé aussi dans notre façon de faire.
Ah oui.
Voilà.
De toute façon, quand on commence soit un processus de sophrologie ou un processus de coaching en communication bienveillante, on a déjà fait 50% de la démarche et de l'objectif, en fait.
Oui, bien sûr.
Parce que, tiens, l'enfant se dit, le jeune se dit, on prend en charge ma souffrance. Tiens, on m'écoute, finalement, et il y a des solutions. Très souvent, quand je reçois des jeunes... ils me disent, je ne savais pas qu'il y avait des ressources, je ne savais pas qu'il y avait une méthode.
Ah bah je croyais que je devais me débrouiller tout seul. Les parents, quelquefois, il leur faut attendre 40 ans pour les découvrir, ces méthodes.
Exactement.
Donc imaginez-vous qu'un ado, voilà.
Exactement.
Ok, donc au bout de combien de temps est-ce que cela devient un réflexe acquis par tous? Au bout de combien de temps? Enfin, vous voyez ce que je veux dire, de pratique, c'est-à-dire j'imagine que vous prescrivez ensuite des exercices, des mises en situation, etc. Enfin, comme, un petit peu comme dans tous les process de sophrologie. Combien de temps ça prend pour retrouver le calme?
Alors, il n'y a pas de temps, c'est vraiment...
Moi, je veux un temps.
Personnalisé, voilà, c'est vraiment personnalisé.
Oui, bien sûr.
Mais je veux dire qu'en sophrologie, déjà à partir de 5 séances, entre 5 et 8 séances, il se passe beaucoup de choses. Parfois, c'est dès la première séance, le retour 15 jours après, ça va être « waouh, il y a déjà pas mal de choses qui ont changé ». Mais pour que ça s'installe, il faut compter un mois, deux mois de pratique. C'est-à-dire pas je viens dans la séance de sophrologie ou de communication bienveillante et je ne pratique pas du tout ensuite.
Oui,
je
c'est ça, c'est qu'entre deux...
Entre deux...
C'est un peu comme les abdos, hein, si on les fait durant la séance hebdomadaire, j'ai envie de dire, on ne va pas voir de résultats.
Il faut vraiment... Alors moi, je leur demande au départ, surtout aux ados, hein, de faire peu, mais régulièrement. C'est comme ça qu'on va créer une routine, une habitude.
Et vous leur faites des petits fichiers audio?
Oui, alors ils reçoivent les audios et une fiche avec tous les exercices.
Fabuleux.
On choisit dès le départ ceux qui leur ont le plus parlé.
Oui.
Après, je leur dis si tu as envie d'en faire un autre, il n'y a pas de souci. Mm-hmm. Si tu sens que tu es énervé, fais plutôt le pompage des épaules. Il y a des différentes techniques. Mais régulièrement, au moins une respiration. Deux fois par jour, respiration
oui,
abdominale.
Oui, même hors de ces moments d'énervement.
Hors de ces moments. Ouais. Le matin, à des moments où ils sont calmes, le matin, le midi, le soir. Pour instaurer une routine, on sait qu'il faut à peu près 21 jours à 28 jours.
Pour instaurer une habitude nouvelle.
Et une routine. Et c'est en pratiquant, en fait, on a au niveau du cerveau limbique une zone qui s'appelle l'amygdale, qui est le lieu des émotions. Et cette amygdale, on a maintenant repéré avec les IRM et les neurosciences qu'elle se réduit quand on pratique une forme de méditation, de relaxation quotidiennement. Et donc, elle devient beaucoup plus réactive aux émotions. Mais c'est pareil, c'est vraiment une pratique de tous les jours.
Ouais, tout à fait. Voilà. Donc pour les ados, ça peut aussi les aider dans leurs conflits amicaux, parce que bon, il y a la famille, il y a le foyer, il y a le domicile, mais c'est vrai qu'ils ont vraiment une vie intense et riche en dehors de la maison. Et ils aimeraient peut-être savoir... que ces outils peuvent aussi les aider dans la gestion de leurs conflits au sein de leur groupe d'appartenance ou autre. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus?
Oui, bien sûr. L'adolescence, l'amitié à l'adolescence, c'est quelque chose de primordial. Mmh. Et une rupture amicale, c'est terrible,
douloureux.
Hein. C'est très,
à
très
tout
douloureux.
Âge, d'ailleurs.
À tout âge. Mmh. Donc c'est déjà, me situer du côté des parents, accueillir cette rupture avec bienveillance, exprimer avec l'adolescent ce qu'il ressent. Ça doit être vraiment difficile pour toi, tu dois être triste. et ne pas dire des choses comme un perdu 10 heures trouvées. Voilà, c'est ce genre de choses que l'on peut. Pas de conseils non plus. Le jeune n'a pas forcément envie de conseils ou de dramatisation ou de plainte. Voilà. Mmh. Et donc, lui exprimer cela, ça va l'aider. Et lui-même, dans les conflits avec ses camarades, s'il pratique cette communication, s'il est capable, il sera capable de leur dire oui, de leur dire non, en accueillant.
Ouais, parce que c'est la difficulté est vraiment là, voilà. Savoir poser des limites avec ses amis.
Exactement.
Dire voilà, ça je ne l'accepte pas, je ne suis pas la personne que tu crois que je suis, voilà. Respecte-moi différemment. Voilà. Ça c'est très difficile.
Et s'il a réfléchi avant à ce qui était précieux pour lui, ce qui était important pour lui, ses valeurs, donc c'est. Encore une fois, dans le milieu familial, parler de drogue, de cigarettes, de sexualité.
Oui.
Parce que c'est à ces moments-là qu'il aura peut-être aussi besoin de dire parfois non ou pas tout de suite. Ou non, c'est, par exemple, la cigarette, je ne veux pas fumer parce que ça me dégoûte. J'ai déjà goûté, ça me dégoûte, ou je n'aime pas, ou je n'ai pas envie de prendre une mauvaise habitude. Donc, dire ce qui est précieux pour lui et d'accueillir que l'autre... Donc, le besoin de l'autre de peut-être partager un moment convivial avec, de dire, par contre, je veux bien rester avec vous pendant que vous fumez, ça ne me dérange pas. C'est-à-dire qu'ils comprennent
sans donner de leçons, sans dire, moi, sais, toi, tu sais pas.
Pas de jugement. Il apprendra, lui aussi, donc, à ne pas juger, à redire les faits de ce qui se passe, à accueillir l'autre dans son besoin et à dire un non ferme, mais ouvert et, voilà, empathique. Voilà. Et... L'ado, ce qu'il faut qu'il comprenne, c'est que quand il dit non à quelque chose, il dit oui à autre chose. Il dit oui à ce qui est précieux en lui-même, à ses valeurs.
Ouais. Voilà. Pour ça, il faut que justement, il ait ses petites armes perso.
Voilà. Et des discussions avec des adultes, même au niveau de l'école. Maintenant, on discute beaucoup sur comment avoir des arguments aussi pour dire non.
Ouais.
Exprimer pourquoi je dis non, pas juste parce que je n'ai pas envie.
Bien sûr. Est-ce que vous pouvez... nous proposer un petit exercice en live de sophro pour amener le calme.
Ah oui, bien sûr.
Oui.
on peut imaginer dans un moment, par exemple, soit de stress, soit de colère. D'abord, on va évacuer. On va faire un petit exercice pour évacuer.
D'accord.
Et ensuite, une respiration dans la foulée. Hein.
Très bien.
Donc déjà, se poser, poser ses pieds sur le sol. Fermer les yeux. Et prendre une grande inspiration. Et souffler. Ça donne aussi un petit espace et un petit temps. Et puis, on va prendre une grande inspiration et on va faire une tension du visage. Donc, j'inspire.
Comme si on était très fâché.
Oui. On va tendre le visage, les poings, les bras, le ventre, le dos, les jambes, les pieds. Serrer complètement. Et souffler. Donc en fait, ça exagère la tension qu'on peut ressentir.
Ouais, c'est ça. Et ensuite, on relâche tout.
Et ensuite, en soufflant, on relâche.
Et combien de fois il faut faire ça pour obtenir un petit effet sur le moment ?
Déjà trois fois.
Trois fois.
C'est un exercice qu'on répète trois fois. Et ensuite, on va faire une respiration abdominale. Là, c'est pour retrouver du calme.
D'accord.
Donc je prends une grande inspiration, je gonfle mon ventre. Et je souffle comme dans une paille le plus longtemps possible. Et ça peut se faire sans qu'on s'en aperçoive, franchement. Alors, la tension-rétention, on n'est pas obligé de serrer le visage dans ces cas-là. On peut serrer ses poings.
D'ailleurs, c'est un réflexe qu'on a quand on est en colère, effectivement.
D'ailleurs, la sophrologie, c'est beaucoup de mouvements primitifs, des mouvements que l'on a déjà et que l'on va faire en conscience. Mmh. Comme la respiration, c'est une ressource qu'on a, mais on n'en a pas conscience habituellement. Et là, on va... faire une respiration consciente. Et c'est ça qui calme.
Ben merci, Laurence. Ça donne envie de venir vous voir. On donnera le contact, votre contact à la fin de cette émission.
Avec plaisir. Merci.
Par contre, j'aurais aimé que vous nous conseilliez l'un ou l'autre ouvrage qui peut aider le parent et l'ado en particulier, parce qu'encore une fois, c'est à eux qu'on s'adresse principalement aujourd'hui. Vous nous avez ramené pas mal d'outils qu'on mettra donc en lien de cette émission et de ce podcast.
Bon, bien sûr, la base en communication non-verbale, c'est en communication non-violente, c'est Marshall Rosenberg. Les mots sont des fenêtres ou bien ils sont des murs. Et vraiment, il est très accessible. C'est son livre de base. Après, il en a fait beaucoup d'autres. Puis des petits cahiers d'exercices pour les ados, ça peut être sympa.
Oui, enfin, quand ça s'appelle exercice, des fois.
Oui, pareil, voilà.
Ils vous regardent et disent, oh non, écoute, ça va aller.
Mais bon, il y a des illustrations, il y a des petits jeux.
D'accord, dire, voilà. Donc ça, c'est un petit cahier qui s'appelle La communication non violente, voilà. Du docteur, Anne Van Stappen. D'accord.
Anne Van Stappen.
Très bien.
Et puis un autre livre qui est là, peut-être un petit peu plus pour les adolescents, justement. Écoute-moi quand tu parles, de Sophie Grosjean. Voilà, c'est trois livres.
J'aime beaucoup le titre.
Oui, ben voilà.
Il dit beaucoup de ce que peut être la non-communication entre parents et ados.
Exactement. Après, il y a aussi des applications pour se relâcher, parce que les jeunes fonctionnent pas mal aussi avec leur portable.
Oui, on avait parlé de Petit Bambou,
voilà,
vous conseillez,
voilà.
Vous aussi.
Vraiment,
super.
Petit Bambou, c'est très sympa.
D'accord, ouais. Chouette.
Et il y a aussi un site qui s'appelle Adozen. Adozen.fr, il y a un blog, il y a une page Facebook.
Oui.
Il y a beaucoup, beaucoup de contenus, de vidéos et qui peuvent vraiment intéresser les parents comme les ados.
Ah bah voilà, bah ça nous donne plein d'outils.
Voilà.
Donc vous allez maintenant nous dire comment on peut prendre contact avec vous, Laurence. Et de toute façon, on mettra le lien vers votre Facebook. Vous êtes assez active sur Facebook, c'est chouette.
Oui,
vous postez des choses très intéressantes. C'est vrai. Et bah ça peut apporter aussi au quotidien, tout simplement. Hein. Mm-hmm. Donc dites-nous.
Alors moi, mon cabinet est au 57 allée de la Roberto, à Strasbourg. Mais comme je ne suis pas toujours au cabinet, que c'est un cabinet partagé, le mieux c'est de prendre rendez-vous avec moi par téléphone. Je donne mon téléphone,
mais si vous voulez.
Donc c'est 06 66 27 58 59, ou bien par mail, donc, et également par mon Facebook. Laurence Lefer, coach et sophrologue.
Oui, c'est pas mal le Facebook en fait, hein, parce que vous répondez très rapidement.
Très rapidement.
Voilà.
Je suis très
souvent. On a à peine fini d'écrire.
Parce que je poste mes événements, j'ai des groupes de sophrologie.
Oui, vous avez des ateliers aussi que vous animez. Voilà.
Des ateliers de communication non violente, ouais. Le samedi souvent.
Très chouette.
Et d'autres ateliers de coaching sur comment activer le positif en nous. Enfin voilà.
Bah bravo pour ce que vous faites.
Bah merci.
C'est vraiment
à vous.
Utile.
Merci.
Merci beaucoup et puis merci d'être venu nous voir aujourd'hui. C'était très intéressant d'échanger avec vous.
Merci de m'avoir invité.
À très bientôt, Laurence.
À très bientôt, merci.
Au revoir.
Au revoir.
C'est pas croyable, on peut rien demander à personne dans cette maison. On peut rien avoir de bien, on peut rien avoir de beau. Je me demande comment vous pouvez vivre ici. Tout est moche ici, tout est petit. C'est petit, c'est moche et c'est tout. Salut.
Toutes les semaines, sur Radio Judaïka, retrouvez l'émission Nos Adorés. C'est l'émission qui répond aux questions que se posent les ados.
Et que nous conseillons vivement aux parents.
Tous les mardis, à 13h30,